Alimentation durable, déchets, biodiversité, conditions de vie des producteurs. Ces enjeux sont liés car notre alimentation est un système dont dépend notre santé, celle de nos sociétés et de la planète.
On fait 1000-1200 couverts par mois. Ça veut dire qu'on est des gros consommateurs de produits. Et alors l'eau est quelque chose de primordial. Et quand on est en cuisine, on en gaspille énormément. Donc j'ai des plats qui sont issus de cette réflexion. Des plats qu'on fait sans eau, mais on cuit une queue de homard ou des pommes de terre avec l'eau qui est contenue dans les légumes.
C'est une question de bon sens.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster alimentation durable. Cette expression consacrée a envahi nos vies de mangeurs et de consommateurs, au risque de passer parfois pour un slogan médiatique ou pour une injonction punitive. Alors, que faire concrètement? Quelles sont les solutions dans un contexte alimentaire de plus en plus anxiogène? Comment trouver le chemin de cette alimentation durable avec sérénité et sans renoncer au plaisir de manger? Ça, c'est important. La réponse est contenue dans les 447 pages d'une Bible impressionnante. Je vais essayer de la soulever. Elle est publiée aux éditions Flammarion, encyclopédie de l'alimentation durable pour une cuisine vivante, et celle qui l'a signée est avec nous, c'est Marie-Laure Fréchet. Bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous êtes journaliste, autrice culinaire, votre nouveau livre est une affaire de femme, autant préciser, puisque vous avez été accompagnée dans cette aventure éditoriale avec la photographe Valérie Lhomme, hein. Vous êtes en compagnonnage depuis pas mal d'années, je crois.
Très grande amie.
C'est ça, et la cuisinière styliste Bérangère Abraham. On ne pourra pas faire le tour de toute la question en une heure, mais on va relayer quelques-uns de vos nombreux conseils, stratégies de consommation, stratégies culinaires, recettes et témoignages contenus dans votre livre. Ça vous va ?
Avec plaisir.
Avec quelques recettes pour se faire plaisir à la clé, évidemment. Nous sommes également ravis de recevoir Sang Hoon de Gimbre. Bonjour.
Bonjour.
Il paraît qu'on peut vous appeler San.
Oui, c'est plus court.
Regarde. Ah, j'ai l'autorisation ?
Oui.
C'est plus court et puis c'est chouette. San, ça sonne super bien, je trouve. Vous êtes belge, avec des origines coréennes, et vous êtes l'un des chefs les plus remuants sur la scène gastronomique européenne. 2 étoiles au guide Michelin, au fourneau de l'air du temps. On est à Liernu, petite commune de la province de Namur, pas très loin de Bruxelles. Vous allez nous faire découvrir le véritable écosystème que vous avez bâti, où vous pratiquez ce que l'on pourrait appeler une gastronomie circulaire. Et vous allez aussi nous faire goûter des choses très surprenantes, dans un esprit à la fois paysan et avant-gardiste.
Oui, les deux. J'aime bien ces opposés.
Un petit indice.
Un jambon de betterave.
Ça commence quand même très fort. Dans les fauteuils des chroniqueurs, bienvenue à notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian et notre historique monsieur vin Dominique Hutin. Salut les copains.
Salut.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi je suis allée à la rencontre d'un agriculteur durable.
Ah, agriculteur durable, et on n'est pas très loin de Paris en plus, moi j'ai ma petite idée. Dominique ?
Moi je serais bio et bon à la fois.
Bio et bon à la fois, c'est possible. On va parler évidemment vin avec vous, puisque vous avez déjà rempli nos verres. Si vous voulez mettre votre grain de sel à la maison dans notre émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Alimentation durable, et si on commençait par une action concrète, celle par exemple d'aller faire un tour, un samedi matin, par une journée froide et ensoleillée au marché de Bourg-Saint-Maurice. Nous sommes dans la vallée de la Tarentaise, département...
J'ai la bouche pleine.
Bourg-Saint-Maurice, Tarentaise.
73.
Bravo.
Savoie.
Et ben voilà, parce que je sais qu'il connaît par cœur, c'est...
Vous voulez le prénom de la sous-préfète ou...
Non, on n'ira pas jusque-là, mais je sais que Dominique connaît sur le bout des doigts ses départements. Je suis allé à la rencontre d'une fromagère au caractère bien trempé. On est au pied de l'église de Bourg-Saint-Maurice. Je m'approche, elle porte un tablier rouge avec son prénom brodé en énorme. Je vous présente Odile.
Avec mes remerciements, je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup.
Vous êtes une vedette ?
Je suis une star mal payée, mais connue. Alors bonjour, je m'appelle Odile Pichot, je suis de Bourg-Saint-Maurice, agricultrice ici, et on est en GAEC avec mon frère au Fort de la Platte, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Voilà, on est producteur de fromage, on a un troupeau de chèvres, un troupeau de vaches, on fabrique, on affine le fromage et on vient le vendre sur les marchés localement, et puis un petit peu à droite, à gauche, en station, de partout.
Vous travaillez avec quelle race bovine ?
On est en Savoie, donc avec des tarines et des abondances. On travaille au lait cru, il y a juste le lait. Salut Jacques. Il y a juste le fortin. Nous, en fin de compte, on ne fait pas du Beaufort, on fait du fortin parce qu'on l'affine dans un fort et qui est chauffé quand même à 54 degrés. Donc, c'est du semi-cru. Voilà, on le laisse vieillir. Il a 2 ans d'âge, nous, notre fortin. Hop là, goûtez-moi ça. Ah là là, ça, on se relève la nuit et même pas on va se coucher le soir quand on a goûté ça. Regardez, ça rend beau et fort. Mais il a du caractère, il est comme nous. C'est exactement le même.
Et vous avez un succès fou ici, il y a beaucoup d'habitués.
Ben voilà, il y a les locaux et puis il y a beaucoup aussi des touristes qui aiment bien aussi les choses de producteurs, les vrais produits. Moi ce matin, ils étaient à la cave. Hier matin, j'ai fait les chèvres, j'ai fait le fromage et voilà. Quand ça arrive ici, je le connais, mon fromage. Et après, en tome de vache, tome de ça qu'on fait régulièrement, qui est toute belle, bien fleurie. On fait de la tome de chèvre et on fait un nouvel animal, un yéti ou un dahu. Qui est moitié chèvre, moitié vache. Voilà. Et puis du cérac, un petit peu. C'est du, en fin de compte, c'est le petit lait qu'on fait bouillir après avoir fait la tome.
C'est le brochu local.
C'est le brochu local, mais c'est meilleur que le brochu.
Ah bon, après, bon vous allez vous faire des amis encore.
Oui, j'espère qu'il n'y a pas de Corse ici. Non, c'est différent. Non, je crois qu'on le fait bouillir 2 fois, eux, 1 fois.
Salut, beauté fatale.
Comment vas-tu, toi?
Tu vas bien?
Eh ben, je vais bien.
Regarde, tu vois, toujours là.
Vois, c'est que
bonjour,
je
monsieur.
Bien.
Bonjour.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Tout.
Je voulais savoir pourquoi vous veniez ici.
Alors, pourquoi je viens ici? C'est très simple. Déjà, quand je viens en Savoie, je suis chez moi. Après, Odile, qui est une femme merveilleuse, une bonne commerçante, une femme qui est toujours resplendissante, plein de sourires. Et ton fromage qui est toujours bon, cher, mais bon. Voilà, c'est pas mal de bonnes raisons quand même, hein, je trouve. C'est bien, hein. Voilà, c'est tout. Allez, mets-moi une belle brique. Voilà. Pas trop dur.
Pas trop. Ah ben, ça tombe bien parce que j'ai que du mou.
Ah, ça, ah bah c'est toi, c'est le contraire de moi.
Ouais, voilà. C'est pour ça que tu la feras durcir. 20 euros, s'il te plaît. Tu veux un petit sachet?
Oui, parce que, s'il te plaît.
Odile Pichot, au Fort de la Plate. Et je vous ai rapporté ce fortin. Il ne faut pas dire Beaufort, elle pourrait avoir des ennuis parce qu'elle ne fait pas partie de l'appellation d'origine protégée. Qu'est-ce que vous pensez de ce fromage affiné pendant 24 mois?
C'est magnifique.
San?
Dans le sens où on a une attaque assez puissante. Mais énormément de douceur, du crémeux, c'est assez long en bouche, légère pointe d'amertume comme ça qui donne une fraîcheur. Je trouve ça magnifique. On n'imagine pas qu'il a 24 mois. Mmh. On n'a pas ce grain de sel ou cet excès de puissance. Quoi.
Marie-Laure ?
Oui, beaucoup de caractère, effectivement, et douceur, c'est ça qu'on retient. Voilà.
Ah bah c'est excellent, mais j'ai aussi très envie de rencontrer Odile après son reportage.
Incroyable, c'est la vedette du marché de Bourg-Saint-Maurice, on peut d'ailleurs aller la voir et lui acheter du fromage. Justement, Marie-Laure, on est quand même en plein dans le thème, acheter du fromage en circuit court, avec seulement quelques kilomètres qui séparent le lieu de production et d'affinage et le lieu de vente. Est-ce que là, on est vraiment dans le bon système de l'alimentation durable?
Oui, bien sûr, parce que qui dit circuit court dit moins de transport, moins d'emballage aussi. Alors après, c'est assez intéressant, justement, la productrice dit « je suis une star mal payée ». Et de l'autre côté, l'acheteur, là, le monsieur qui vient chercher son fromage, dit « il est cher ce fromage ».
Ah, il y a un
hiatus. Et là, on est en plein voilà dans la vraie question de la juste rémunération du producteur.
Et pourtant, a priori, en réduisant le nombre d'intermédiaires, il y a plus de chances pour que le producteur, justement, ait un revenu décent.
Effectivement, voilà. Mais là, justement, on pointe tout le problème de la filière agricole, voilà, d'une juste rémunération par rapport à la valeur d'un produit comme celui-ci.
Dans le cadre d'une alimentation durable, consommer du fromage plus ou moins régulièrement, quotidiennement, vous allez me répondre, ça dépend de quel fromage il s'agit, c'est ça, Marie-Laure Fachet?
Bien sûr, voilà, ça effectivement comment il est produit, le respect aussi de l'animal, voilà. Que, est-ce qu'on fait pisser du lait, voilà.
Donc il y a le choix des races aussi.
Pour faire du fromage, ou est-ce qu'on on privilégie une filière comme celle qu'on vient d'entendre avec un animal qui est respecté et puis un fromage aussi au lait cru. Donc ça c'est important aussi pour préserver toutes les qualités de ce lait.
Sang Hoon de Gimbre, chef 2 étoiles, brillant, je peux le dire. On a eu la chance il y a quelques années d'aller tester son restaurant, hein, vous vous en souvenez, chère Marie-Laure, et vous avez fait une cuisine d'avant-garde exceptionnelle dans le plat pays. Votre rapport au fromage dans votre restaurant gastronomique?
Mais on privilégie les fromages de Belgique d'abord, mais pas seulement. On reste quand même ouvert sur le monde, plutôt axé sur l'humain. Donc les personnes qui font des bonnes choses, on met ça en avant. Et donc on a... Effectivement, on respecte ça, on propose le fromage dans son état, mais on a un acte de cuisinier. Chaque fromage est cuisiné de la même manière, il est proposé en parallèle. Donc vous avez l'original et la préparation.
Un exemple?
Donc là, pour l'instant, on a, c'est 5 petites préparations. On travaille sur un lit blanc coucou, c'est un fromage qu'on a près de chez nous. Mmh. On travaille, on le déguste en groupe, en équipe, et on décèle ce qu'on retrouve en premier jet.
D'accord.
Donc là, on avait retrouvé des notes de champignons, travaillé aussi sur le côté un peu noisette, mmh. et donc on a travaillé sur un praliné sec, enfin sans sucre, avec champignons séchés, et on le présente comme ça, simplement, sur différentes textures. Quoi.
Vous ne l'avez pas apporté ?
Non, faudra venir.
Ce n'était pas prévu, mais on va goûter bien d'autres choses dans un instant dans le cadre de l'alimentation durable et de la gastronomie durable. C'est le sujet du jour dont on va déguster derrière la console pour mitonner cette émission, Laurent Thomas, Jenab Sangaré, Nadia Chougui, et après la gouaille d'Odile, eh ben, on va se remettre une bonne dose de bonne humeur en ce dimanche, qui n'est pas forcément ensoleillé partout. Djoubaka a choisi ça.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tenuama, mas tem sertanejo, pé, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba beija pagodrejo, tem ferrugem, glória grude, Maiara e Maraísa e um. Tem Paca, Chuta, Bruce, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Caetano Veloso, l'artiste brésilien engagé et populaire, a quand même 79 ans et toutes ses dents, puis toute sa voix aussi, vous l'avez entendu. Et il revient avec un nouvel album, Sem Samba Na Oda, sans garantie de prononciation. L'alimentation durable, solutions et recettes, c'est notre menu du jour.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Alimentation durable.
Alors que la superficie des terres agricoles recule, nous serons 9 milliards en 2050 sur la planète. Autant de bouches à nourrir.
L'alimentation durable est devenue une priorité.
Cela signifie consommer une alimentation de bonne qualité pour notre santé tout en tenant compte des enjeux environnementaux.
Alimentation durable, la transition, ça commence avec moi.
Et l'alimentation durable, ça commence avec nous, autour du plateau dont on va déguster. Alors, cette expression d'alimentation durable, elle s'est quand même imposée partout, dans les médias. Elle s'invite même en ce moment dans la campagne présidentielle. Elle est aussi dans le titre de votre encyclopédie chez Flammarion, Marie-Laure Fréchet. Et pourtant, dans l'intro de votre livre, on vous sent pas forcément très à l'aise avec cette expression d'alimentation durable. Faut bien dire qu'on est dans un contexte où rien n'est vraiment durable, à part peut-être une certaine crise sanitaire. Pourquoi vous vous méfiez un peu de cette expression ?
Je me méfie pas de l'expression. L'expression, enfin, le terme, il existe. Il y a une définition, voilà, qui a été formalisée par l'ONU. Elle est, non pas complexe, mais très complète, puisqu'elle fait référence à la fois à la protection de l'environnement. Il y a un aspect social aussi qui est très important, la juste rémunération des producteurs. On en parlait justement avant.
Le maintien de la biodiversité également.
Voilà. Un aspect culturel aussi, de préservation des patrimoines culinaires. Donc, voilà, c'est assez complexe ou long à expliquer. Donc voilà, moi j'aime bien résumer cette formule par c'est ce qui est bon pour nous, à la fois donc en termes de goût et de santé, et bon pour la planète. Voilà, ça on peut dire ça. Et puis c'est vrai que dans la rédaction du livre, j'ai fait un parallèle avec un bon sens ménager qu'on a perdu. Parce que voilà, autrefois par exemple, nos grand-mères avaient toutes chez elles, avant même les livres de recettes, puisque les livres de recettes certes existent depuis longtemps, mais la quantité de livres de recettes qu'on a à présent, c'était pas le cas il y a encore 50 ans. Mais nos grand-mères avaient toutes chez elles un petit manuel de conseils, en fait, finalement, pour bien se nourrir. Et voilà, moi je trouve qu'on peut rapprocher de cette notion de durable du bon sens ménager qu'on a perdu, sachant que ménager, donc évidemment le ménager c'est ce qui a trait à la maison, enfin voilà, mais c'est aussi, on entend aussi se ménager soi-même, sa santé, ses ressources, et puis finalement maintenant à notre époque aussi, ménager la planète.
C'est vrai qu'on a tendance à supprimer le mot ménager de notre vocabulaire pour les connotations, les allusions qu'on peut imaginer, hein. Ménager, la ménagère, c'est vrai que ça pourrait faire penser à l'idée de renvoyer la ménagère à ses fourneaux. Donc on se méfie également un peu de cet adjectif.
Non mais c'est un très beau mot, ménager, donc évidemment on va dégenrer tout ça, je suis pour la ménagère et le ménager, bien sûr, voilà.
San, quand on vous dit, ou quand on écrit sur vous, quand on raconte que vous êtes engagé dans la gastronomie durable, comment vous accueillez cette expression ?
Mais premièrement, ça paraît complètement opposé à la notion de gastronomie à un certain niveau.
J'allais le dire.
Donc on est des grands gaspilleurs, par définition. Et puis je pense que là, c'était essentiel de passer par la case production, soi-même, pour se rendre compte du gaspillage ou de la nécessité ou de l'énergie déployée pour mettre un repas à table.
Absolument.
Donc tout ça, quand on me dit qu'on est engagé en durable, je pense que c'est une vision extérieure, mais on ne comprend pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur.
Dans les médias belges, Laurent Thomas, notre réalisatrice, en allant voir du côté des vidéos qui vous sont consacrées, mais également des reportages chez nos amis les médias belges, il y a une expression qui revient assez souvent et qui est assez peu présente dans le débat français, c'est conscience alimentaire. Vous l'assumez ?
Oui, parce que c'est vraiment une question. Dans ce cas-là, c'est une action. Vraiment, la conscience est quelque chose qui est personnel. On va vers. On n'attend pas que quelque chose vienne vers nous. Donc, la conscience, c'est se réaliser. C'est réaliser en tout cas tous les détails qui sont importants pour faire quelque chose qui a du sens.
Et on va le voir dans votre écosystème que vous avez bâti. On va y entrer dans un instant et concrètement à travers des recettes. Juste avant, une petite question, Marie-Laure Fréchet. Vous êtes connue sur la scène gastronomique et dans le milieu de l'alimentation comme l'une des expertes incontournables du pain et de la boulangerie à la maison. D'ailleurs, dans cette collection, j'invite nos auditeurs, on avait fait à cette occasion une émission, à se reporter à deux autres titres, hein. C'est La viennoiserie et le pain, dans cette...
Du pain maison, l'encyclopédie du pain maison.
Absolument, toujours chez Flammarion, qui, je crois, ont connu de très beaux succès.
Oui, je pense. Ouais. Elle est traduite en anglais aussi.
C'est
pour
ça, une carrière internationale, carrément, pour les livres de Marie-Laure Fréchet. Est-ce que votre expérience dans le pain vous a orienté naturellement, sans jeu de mots, vers l'univers de l'alimentation durable?
Oui, très, très clairement. Alors, le pain, on a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est d'actualité, avec cette fameuse baguette à 29 centimes. Moi, j'ai redécouvert le pain il y a une petite dizaine d'années, à la faveur d'une rencontre formidable avec un ami commun, avec le boulanger Roland Feuillasse.
Et oui, on le salue, Cucugnan.
Voilà, bonjour Roland. Et voilà, lui respecte tellement le pain qu'il appelle ça le pain nature avec un N majuscule. Voilà, et donc à travers ce pain nature, c'est aussi redécouvrir que le pain, certes, c'est de la farine et de l'eau, mais quelle farine, quelle céréale, quelle variété, et comment est exprimée cette farine, et comment on la met en œuvre, le levain, etc. Voilà, et donc quand j'ai découvert finalement qu'un aliment aussi simple que le pain pouvait être le meilleur comme le moins bon, je me suis dit, voilà, ce serait intéressant de passer au même crible tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit. Voilà, moi je me considère quand même comme très informée en tant que journaliste culinaire, mais quand je fais mon marché, je me pose encore tous les jours des questions en me disant est-ce que c'est un bon aliment ? Voilà, donc c'était d'où l'idée de cette encyclopédie, parce que voilà, c'est important de savoir. L'alimentation durable peut sembler une contrainte, mais c'est au contraire une liberté retrouvée. Parce que quand on sait, voilà, on choisit librement son alimentation et après, voilà, c'est un plaisir de cuisiner ces bons aliments.
Ce n'est pas une restriction ou une punition, et on le sent à la lecture de votre livre, deux parties, une partie savoir, où pour le coup vous explorez un nombre de sujets et de thématiques vraiment impressionnants, et ensuite une deuxième partie faire, concrètement on fait quoi, c'est aussi les solutions que l'on va proposer dans cette émission. San, le pain dans votre démarche gastronomique, on observe depuis maintenant peut-être le début du confinement, mais même au-delà, le retour du pain fait à la maison, les chefs eux aussi ont décidé de s'approprier cette partie culinaire ou alimentaire. Vous faites votre pain?
Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que dans tout restaurant, on fait son pain, mais on le fait avec plus de conscience, justement. On essaie de savoir d'où provient le blé, etc. Enfin, par chez nous, c'est des producteurs. C'est c'est un producteur en biodynamie. Ce sont des producteurs de leurs propres grains, propriétaires de leur terrain. Donc tout ça, ça me paraît essentiel. Et le levain aussi, voilà. On passe par toutes les cases qui sont pour moi vertueuses. Quoi.
Rien n'est laissé au hasard dans votre restaurant L'Air du Temps. Vous êtes au fourneau de ce restaurant, on n'est pas très loin de Bruxelles, de l'autre côté de la frontière, mais vous n'êtes pas qu'au fourneau. C'est restrictif de dire que vous êtes au fourneau d'un restaurant, parce que vous êtes partout, en fait, dans cet écosystème que vous avez bâti à la campagne. Vous êtes aussi au potager, puisque votre restaurant est entouré d'un immense jardin nourricier. Combien d'hectares ?
5 hectares.
Incroyable. Ouais. Combien de variétés de plantes potagères ?
Mais c'est assez difficile à dire. On dit 400. Parce que sur une plante, on utilise plus que le fruit. Sur un petit pois, on utilise la cosse, la feuille, la fleur, la racine, la tige.
Ben vous allez
ça fait quand même 5.
Vous allez nous en faire une démonstration. Mais saluons quand même celui qui vous accompagne depuis 20 ans.
Benoît qui est là depuis 20 ans, effectivement, qui a commencé le jardin avec nous. Et maintenant, c'est une équipe de 6 jardiniers.
Benoît Blervac.
Sur le temps plein. Voilà, tout à fait.
Et vous êtes entouré d'une vraie équipe, d'une performance incroyable. Et effectivement, vous faites des choses étonnantes avec un légume. Allez, premier petit exercice. Le topi.
Topinambour. l'artichaut de Jérusalem.
C'est ça. Jérusalem artichoke.
Voilà. Et donc, le jardin nous a vraiment appris à exploiter le maximum des choses. Donc, quand vous arrivez et que vous prenez tellement de temps à sortir un topinambour, on va le nettoyer, on va l'éplucher, et qu'est-ce qu'on fait avec les plures, qu'est-ce qu'on fait avec la chair, etc. Donc il y a énormément de choses qu'on a fait avec le topinambour, mais une chose qui me paraît très très chouette, c'est réutiliser les peaux, les faire fermenter pour acquérir une acidité.
Écoutez bien.
Puis on les fait sécher, puis on les torréfie entre 150-160 degrés, pas comme le café, parfois c'est un peu trop haut. Et cette température nous permet d'avoir un genre de slow coffee de topinambour.
Un café de pot de topinambour. Je veux goûter. Où est-il?
Il est là. Donc
vous avez carrément apporté votre petite cafetière à pisson.
Voilà. Donc j'ai la poudre aussi. Je vais vous faire passer.
Non mais attendez, incroyable.
Pas à goûter.
Faites passer les gobelets de ce café de topinambour.
Faut la goûter parce que c'est aussi un assaisonnement.
Très bien. Ah oui.
Et puis là, je vous fais passer la le petit
magnifique
piston.
Voilà, chacun se verse.
Mais au nez, on a ces notes torréfiées, on a une pointe d'amertume comme le café.
Ah, Dominique a carrément le nez dans la poudre.
Ouais. Bah, le nez dans la poudre, enfin, mes parents écoutent.
J'ai pas fait exprès. Le nez dans cette poudre de topinambour, ça a d'ailleurs vraiment la couleur d'une poudre de chicorée ou de café.
C'est ça.
Je voulais la goûter à sec et ça me fait penser à une autre initiative. Il y a des gens qui subissent, par exemple, dans certaines régions, l'invasion du cactus. Et plutôt que de l'arracher, ont décidé d'en faire justement des torréfactions un peu à votre image, à base de cactus. Donc on s'affranchit d'un problème pour transformer cet handicap en nouvel essor pour un territoire.
Mais les contraintes provoquent la créativité, hein. C'est clair que...
Incroyable. Alors, on en pense quoi de ce café? Est-ce que c'est bluffant? Ça fait la blague ou pas? Ça fait plus que la blague. Je crois que c'est vraiment une stratégie très intelligente.
C'est très bon. On sent le topinambour, mais assez doux. Enfin, ça vient pas envahir non plus.
Ça apporte la sucrosité, en fait. Pas besoin d'ajouter du sucre. Mais c'est vraiment à l'instar des slow coffee qu'on a dans les pays nordiques.
Il y a un bon équilibre entre sucre et acidité, c'est vraiment prodigieux. Deuxième stratégie, très étonnante comme ça, juste pour comprendre comment vous vous faites dans votre potager, et puis avec toutes les récoltes que vous avez, là, vous faites aussi carrément des salaisons de légumes.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que notre cuisine se végétalise de plus en plus, et donc inévitablement, on a des marqueurs que nos clients nous demandent parfois, et que nous, on souhaite avoir, comme les charcuteries. On fait des vraies charcuteries, mais on a exploré le domaine de la charcuterie végétale, ou même de poisson, quand ça arrive.
Non mais...
Donc là, il y a d'une manière très, très classique, hein, j'ai été boucher charcutier dans ma formation, on faisait des charcuteries de porc. Et ici, on a fait un peu la même chose. On a salé la betterave et puis on l'a laissé maturer, laissé à température pour qu'il y ait une début de fermentation lactique, pour avoir l'acidité comme pour un saucisson ou un jambon. Et puis là, on l'a laissé maturer. Donc ça fait ça date d'octobre de l'année dernière. La deuxième version, c'est une version koji. Donc c'est très à la mode chez les chefs pour l'instant, travailler le koji. C'est un micro champignon qui permet de développer des nouveaux acides aminés, donc qui donne des goûts supplémentaires.
Et qui est utilisé notamment au Japon pour faire cette fameuse...
Pour faire le saké, pour faire le miso.
Et cette pâte de soja aussi, le miso, ouais.
Exactement, voilà. Donc j'ai apporté ceci pour vous faire goûter. Ils ont donc ça date d'octobre.
Oui.
Donc, vous verrez un peu la différence entre.
Eh ben, j'aimerais que vous saucissonniez ces betteraves crapaudines salaisonnées. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il y a de la fermentation, de la conservation. Ce ne sont pas des stratégies à faire à la maison, mais c'est pour montrer comment aujourd'hui les chefs sont engagés dans cette gastronomie durable. On va goûter, mais on va les faire justement puisqu'on est au potager. Eh bien, une petite escale à la campagne avec notre amie Zazie Tavitian. Eh ben voilà, on est au potager. On y reste.
On va déguster. Sur France Inter.
Vous avez décidé, chers Zazie, d'aller directement à la source de la cuisine durable, c'est-à-dire dans les champs, et pas n'importe lesquels, ceux d'un maraîcher bio que j'ai récemment d'ailleurs rencontré autour d'un légume que j'adore, le navet boule d'or. C'est Xavier Fender.
Et oui, François Régis, je suis allée le rencontrer à Toulotte. Il cultive un peu plus de 4 hectares de légumes, donc c'est en Seine-et-Marne, à 80 km à l'est de Paris. Il a monté sa ferme Les Limons de Toulotte il y a 7 ans. Et je lui ai d'abord demandé de me raconter le modèle agricole qu'il avait imaginé.
Alors je voulais travailler en bio, ça c'était une évidence. Et après j'ai très vite voulu des arbres aussi. Voilà, l'idée des légumes c'est parce que c'est facilement une grande diversité de végétaux. Et puis c'est aussi plus facile à commercialiser. Nous on a trouvé un environnement qui est quand même très préservé. On est entouré de forêts, on est une sorte de clairière au milieu d'une forêt d'une centaine d'hectares. En pleine brie, donc on est dans un endroit qui est bien préservé et très agréable, même si là le ciel est complètement bouché et qu'on a bien froid.
Est-ce que vous vouliez un modèle agricole durable ?
Oui, alors durable dans le sens où il faut qu'il soit résilient à tous ses points de vue, c'est-à-dire à la fois assez diversifié pour pouvoir compenser certaines pertes, à la fois économiquement viable pour pouvoir vivre et éventuellement payer des salaires. Et durable, c'est-à-dire aussi transmissible. Alors moi, je suis encore jeune, hein, mais qui puisse être transmis. Et là, dans ce que je fais, on construit vraiment quelque chose de durable. Hein. Planter des arbres, c'est voir aussi loin devant. On a un système de récupération d'eau, on va dire minimaliste, et qui commence à être au point, qui nous permet d'être autonome en eau pendant une période de 6 à 8 semaines. Donc c'est parfois un peu juste en plein été, en réalité.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Alors, vous l'avez entendu, la durabilité, ça repose sur comment faire une agriculture respectueuse de l'environnement, mais aussi sur comment l'agriculteur va réussir à vendre sa production pour pouvoir se rémunérer lui et son équipe. Au Limon de Toulotte, ils sont 3, donc il y a Xavier qu'on a entendu, et aussi Thomas Mousseau qui est le chef de culture, et Jean Piquenet qui est stagiaire. J'ai demandé à Xavier Fender de me raconter le modèle qu'il avait choisi pour vendre ses légumes.
Donc en fait, le premier débouché et historique, c'est les AMAP, qui sont des consommateurs qui s'engagent à soutenir la ferme en échange des légumes, en fait, de recevoir les légumes régulièrement. Donc nous, toutes les semaines, on livre une part de récolte, c'est-à-dire une partie de la récolte de la semaine va entièrement aux AMAPiens, qui ont un contrat d'un an. C'était le seul moyen d'avoir une sécurité à la fois économique et de déboucher sans se poser de questions sur ce qu'allaient devenir nos légumes une fois récoltés, quoi. Et après, je travaille avec des restaurants. C'est un peu une relation de longue haleine, en fait, qui s'est installée. Alors aujourd'hui, ça fera 3 ans. On travaille toujours avec les mêmes. On les a toutes les semaines au téléphone. Puis on livre aussi une entreprise qui s'est engagée à acheter nos légumes régulièrement et on livre tous les salariés. Tous les gens avec qui on travaille, donc à qui on vend nos légumes, s'adaptent à notre production. Et ça a de durable que on livre tout. Donc on livre ce qui est petit, ce qui est gros, sans tri. Donc on a zéro perte.
Alors c'est vrai aussi que quand on est consommateur, d'autant plus dans les grandes villes, c'est parfois compliqué d'être en lien avec les personnes qui nous nourrissent. Et le système des AMAP dont parlait Xavier, donc ça signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ça permet vraiment de soutenir les agriculteurs et les agricultrices de façon très directe et très transparente. La première AMAP, elle a d'ailleurs été montée il y a 20 ans par Denise et Daniel Villon. C'est des maraîchers varois qui cherchaient une alternative. Ils en avaient assez d'être dépendants des prix au rabais que pratiquaient les grandes surfaces.
Et au niveau, justement, du prix pour les consommateurs, ça reste quand même intéressant?
Eh ben oui, c'est assez intéressant parce qu'une année de panier de légumes bio et locaux au Limon de Toulotte, ça revient à 790 € par an. Mmh. Donc ça fait 18,81 € le panier. Il y a à peu près 42 paniers. Donc c'est assez raisonnable vu la qualité. Mmh. Bon, alors après, évidemment, il y a quelques contraintes comme aller chercher ses paniers à jour et à heure fixe, ne pas choisir ses légumes. Mais c'est aussi des contraintes qui permettent aux consommateurs de suivre les saisons et de goûter énormément de variétés différentes.
Et ben ça c'est sûr. Et ben justement, il y avait quoi par exemple dans le panier cette semaine de Xavier Fander?
Alors on est en plein mois de février, donc j'avais un peu peur que ce soit la déprime. Mais en fait, c'était quand même très varié.
Il y en avait j'espère.
Il y en avait pas, mais il y avait des pommes de terre, des blettes. Il varie un peu au fur et à mesure des semaines pour pas que les gens aient la même chose à chaque fois. Des choux de Bruxelles, du chou kale, de la mâche, du radis noir, des radis en bottes, des petites betteraves et les dernières courges. Moi, je vous ai cuisiné quelque chose de très simple. Hein. Je ne sais même pas si on peut dire cuisiner. Je vous ai coupé des fines tranches de radis noir sur lesquelles j'ai posé des copeaux de parmesan ou de vieux comté. J'avoue que j'aime pas spécialement le radis noir habituellement. C'est une recette de mon amie Céline Maguet qui écrit un livre sur les légumes en ce moment.
Non, mais c'est une dimension apéritive.
Parmesan. Voilà,
c'est
parmesan simple, plus radis noir, ça donne un coup de boost au
L'umami du parmesan avec la fraîcheur et le croquant un peu piquant, légèrement amer du radis noir, c'est effectivement très chouette. Et Zazie, dernière chose, j'ai la bouche pleine, désolé. Est-ce que nos auditeurs peuvent goûter les légumes des Limons de Toulotte?
Bah alors ils peuvent les goûter s'ils vont dans les restaurants où ils sont cuisinés, donc c'est le cas au Candide, au Mermoz ou chez Bruno Verjus. Il reste aussi, je crois, quelques places dans ces AMAP parisiennes. Ils en livrent deux dans le nord de Paris. Et le système des AMAP dont je vous parlais, lui, il existe évidemment dans toute la France. Donc je vous invite à regarder autour de vous sur le site réseau-amap.org.
Très bien, merci beaucoup Zazie Tavitian. Marie-Laure Fréchet, vous confirmez que l'AMAP est l'une des solutions gagnantes et qui se développe pour justement renouer avec l'alimentation durable?
Oui, tout à fait.
On est
en circuit court. Alors, circuit court à pas confondre avec local. Un circuit court, c'est un circuit dans lequel il y a peu, enfin, un seul intermédiaire, pas ou un intermédiaire. Mais voilà, effectivement, ça permet de réduire la chaîne de distribution. Et puis, finalement aussi, de découvrir des légumes qu'on a plus forcément l'habitude de cuisiner.
C'est ça. Vous ne vendez pas encore de panier quand même?
On l'a fait pendant le confinement, en fait.
Ah, vous l'avez fait pendant le confinement?
Parce que le jardin, il a continué à pousser.
Et oui, évidemment. Lui, donc, il ne s'est pas confiné le jardin.
Non, et donc c'est fou parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un cycle naturel pendant ce confinement.
Absolument.
On a dit, on fait rien, on va s'occuper du jardin.
Incroyable expérience.
On s'est occupé du jardin et puis on a distribué des paniers.
C'est ça. Et vous avez fait des salaisons de betteraves.
Oui, un peu de tout, quoi.
C'est ça. Incroyable, ce jambon de betterave. Je suis totalement bluffé par le goût, par sa texture. Moi qui ai l'habitude de la charcuterie corse, je retrouve vraiment ce moelleux un peu ferme de la coppa.
Et puis ces gens qui sont un peu peut-être fatigués ou un peu fâchés avec le caractère prégnant du côté terreux de la betterave, là c'est vraiment, pour le coup, c'est évacué à tel point que...
C'est plus une sucrosité ici.
Et ben, c'est ce que j'allais dire.
Presque un peu pâte de fruits, mais avec la texture d'une salaison.
Et comme disait Marie-Laure, c'est très peu salé. On l'a très peu salé, justement.
Moi, je le tenterai en dessert. Moi, je mène avec des clous de girofle, par exemple, en dessert, je serais assez tenté de...
Mais en dessert, je fais des pâtes de fruits de betterave, au fait.
Vous embauchez encore ou non?
Et on n'est pas loin de la texture de la boutargue aussi.
Oui, tout ça. Hein, tout à fait.
Ces œufs séchés de mulet.
Ouais, tout à fait.
Vous en pensez quoi, Marie-Laure? Vous connaissez?
C'est très intéressant, effectivement. Et puis, justement, ce dosage entre le sucre et le sel. On est sur une saveur.
C'est vrai que
si
on veut aller plus en apéritif, là, on est un peu plus salé dans ce cas.
Voilà.
Et ils sont assez différents, les deux, quand même. Il y en a un qui est un petit peu plus sur la sucrosité que l'autre, je pense.
Ouais. Et l'autre, celui au koji, est un peu plus sur l'acidité.
Oui, c'est ça.
Mais le premier, on sent qu'il y a des herbes aromatiques, il y a des pointes de lavande, etc., qu'on a dans le jardin. Donc c'est vrai que le premier me dérange un peu parfois, ça me fait un peu savonnette.
Je trouve ça vraiment délicieux.
Je préfère le deuxième.
De gingembre et Marie-Laure Fréchet, sachant que vous avez fait une petite place justement à notre ami belge, à la page 304 de votre livre Encyclopédie de l'alimentation durable pour une cuisine vivante aux éditions Flammarion. Le lierre nu du moment, c'est l'une des recettes qui est présente dans ce livre. Vous nous en dites un mot, cette recette ?
Mais c'est un plat qui est à la carte tout le temps, dans tous les menus.
Liernu, rappelons que c'est la commune où se situe exactement l'air du temps, votre restaurant.
Mais il est différent tout le temps. Et là, c'est vraiment c'est le représentant du jardin en saison.
C'est-à-dire, c'est la petite vitrine dans l'assiette.
Exactement.
D'une photographie potagère à intenter.
Et dans les proportions.
Ça peut donner quoi en ce moment ?
Ben là, pour l'instant, c'est radis, navets, choux.
Et vous dites ça avec le sourire.
Ben oui, bon, parce que c'est fabuleux.
Vive les légumes racines. Allez, on va s'intéresser à d'autres solutions concrètes. Il y a notre ami Marie-Laure Fréchet qui va passer à la plaque de cuisson, dont on va déguster avec une recette dont vous annoncez juste l'intitulé.
C'est des petites crêpes qui sont garnies avec du poireau et du citron.
Et vous allez voir, c'est une super recette délicieuse, mais ça c'est juste après Loni, avec un titre un peu plus pessimiste que notre émission pleine d'espoir. Comme la fin du monde, rien que ça, et c'est sur France Inter. Et si l'avenir de la planète est le nôtre, commençait dans notre assiette, c'est la question à laquelle on répond avec Marie-Laure Fréchet, journaliste, autrice de l'encyclopédie de l'alimentation durable pour une cuisine vivante aux éditions Flammarion. Autant dire que c'est un livre incontournable, une bible qui peut paraître comme ça un peu intimidante. Et dès qu'on plonge dedans, il y a à la fois évidemment tout ce que l'on doit savoir sur le végétal, l'animal. On va d'ailleurs tenter de répondre à certaines des questions qu'on n'a pas évoquées. Mais il y a aussi un vrai beau carnet de recettes, plus de 100 recettes, dont le lierre nu du moment, on l'a compris, cette on va pas dire ce gargouillou belge, mais on est un peu dans l'idée. Ouais. Je fais référence à cette assiette végétale de Michel Bras, qui a eu 3 étoiles à l'Aïole. On est dans le plateau de l'Aubrac. Alors, preuve que l'alimentation durable, ça peut se pratiquer concrètement au quotidien. Une petite recette, toute simple, très agréable, pour laquelle on a eu un coup de cœur autour du poireau.
Voilà, une petite recette. Les recettes, j'en profite pour dire qu'elles sont signées par Bérangère Abraham.
Oui, j'ai déjà dit, mais vous avez parfaitement raison
voilà,
de le rappeler.
Voilà, et donc pour ce livre, Bérangère nous a signé des recettes qui sont à la fois très simples, très, très savoureuses, très peu d'ingrédients. Des ingrédients, pour le coup, qu'on peut très facilement sourcer. Une cuisine aussi économique, bon marché. Voilà. Et là, par exemple, une très bonne illustration, ces petites crêpes aux poireaux et au citron. Mmh. Alors, on est loin de la chandeleur, c'est pas des crêpes traditionnelles. On est plutôt dans l'esprit d'une pâte à pain, mais là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une pâte morte, puisqu'il n'y a pas de ferment, il n'y a pas de levure ou de levain. Juste
donc,
de la
farine.
Voilà, elle ne lève pas.
Elle reste, elle est morte.
De la farine et de l'eau. Voilà, très simplement. On l'étale très finement. Et puis, on va la garnir. Là, c'est là, en ce moment, avec des poireaux, par exemple. Une petite fondue aux poireaux qu'on va relever avec un petit peu de citron. Et puis, voilà, c'est un peu l'esprit, pour ceux qui connaissent la cuisine indienne, des parathas. En fait, voilà, ces petites crêpes qui sont repliées.
Qu'est-ce que c'est bon, ça?
Voilà, donc c'est tout simple et puis on peut la garnir selon la saison d'oignons, de tomates, de chèvre, mettre un peu de brousse, de chèvre. Voilà, c'est très simple.
En quoi cette recette correspond à l'alimentation durable? Aussi parce qu'elle utilise le ver de poireau ou une partie du ver de poireau et ça c'est important.
Oui, alors déjà c'est uniquement 4 ingrédients. Voilà, et puis donc là on utilise le blanc de poireau et je propose par exemple, donc surtout les verts, on les garde. Une autre petite recette qu'on retrouve aussi dans le livre, alors donc les recettes sont signées de Bérangère, mais on a aussi donc invité des personnalités de la cuisine, on l'a dit par exemple San des chefs, et cette recette qui utilise des verres de poireau, c'est Ryoko Sekiguchi, qui est une journaliste, auteure culinaire,
écrivaine japonaise,
voilà, brillante, qui nous a proposé cette façon d'utiliser les verres de poireau. Ça marche aussi avec des verres de ciboule par exemple, on les cisaille très finement. On les passe un peu au sel pour faire dégorger un peu l'eau. Et puis ensuite, on les conserve dans une huile de sésame.
Oh, qu'est-ce voilà. que c'est
bon. Et ça, on peut avoir ça en permanence dans son frigo. Ça accompagne, là je l'ai proposé avec du tofu soyeux. Mmh. Et sur un riz blanc, c'est une merveille.
On résume, ça c'est un truc prodigieux. Ça c'est vraiment un truc qui va avoir du succès auprès de nos auditeurs. On cisèle des vers de poireaux qui d'habitude finissent au mieux dans le composteur. Au pire, à la poubelle.
On peut aussi les conserver au congélateur, en faire un petit bouillon.
Ah, voilà. Absolument. Et on les cisèle finement, on les masse un peu au sel. Hein,
on les masse un peu au sel pour enlever l'eau.
Voilà. Et ensuite, on les
conserve. On les met dans un bocal à confiture, par exemple, ou un petit bocal le parfait. Mm-hmm. Et puis, on recouvre d'huile de sésame. Après, on peut rajouter un petit piment, on peut assaisonner.
Ça, c'est étonnant.
Ça fait un petit condiment, voilà.
Vous aimez ou pas, San?
Magnifique.
Qu'est-ce que vous faites là spontanément avec le poireau?
Avec le verre de poireau, on les fermente. Désolé. Et on fait des tartelettes avec.
Vous faites des tartelettes.
Ouais.
La fermentation, la conservation, ça revient très souvent évidemment.
Ouais.
Vous évoquez les traités de cuisine ménagère entre guillemets ou les traités d'économie domestique qu'on a vu beaucoup dans le paysage depuis le milieu du 19e siècle. Il y avait toujours un chapitre conservation. Faire ses conserves, c'est une façon aussi de ne pas jeter les surplus de production et surtout de se réserver des ressources. Quand ce légume vient à manquer, si il s'agit de conserver ce légume.
Exactement. Donc ici, on travaille avec le jardin exclusivement. Mm-hmm. On s'autorise peut-être 5% de légumes qui viennent de l'extérieur. Et donc ça veut dire que quand on est en saison pleine, on conserve pour l'hiver. Donc vraiment le bon sens paysan, quelque part, on conservait pour l'hiver.
Alors autant le café de Topinambour et la salaison de betterave, ce serait un peu mentir de dire que c'est accessible pour nos auditeurs, parce que c'est des stratégies de chefs étoilés qui ont fait, je pense, l'objet de plusieurs années de recherche ou d'essais, de multiples essais.
C'est bien de donner un côté mystérieux au truc, mais c'est hyper facile à faire.
Ah, d'accord. Bon, il y a des recettes de ça.
C'est aussi un savoir-faire, la conserve, c'est aussi justement que nos grands-mères maîtrisaient parce qu'elles avaient un potager, etc. Mm-hmm. Mais bon, voilà, on peut aussi.
Les choses avant se transmettaient un petit peu comme. Je crois que la cuisine et le bon sens ménager et paysan étaient de la transmission.
Ah,
aujourd'hui, on va décortiquer ces faits, finalement, ces gestes. pour en faire quelque chose qui soit beaucoup plus méthodique.
Alors, qui dit conservation, ce peut être le sel, même s'il peut y avoir aussi fermentation, c'est la salaison. Ce peut être des bactéries lactiques, c'est la lactofermentation. Là, vous nous proposez un truc tout simple, applicable à quantité de légumes. La recette est déjà en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Et vous allez nous faire une démonstration de quelques secondes, preuve que vraiment c'est praticable.
Vraiment, vraiment. Là, j'ai mis dans mon petit pot des carottes.
Alors un petit pot de quelle contenance à peu près?
C'est le fameux 200 ml.
200 ml, il est tout petit. C'est le fameux pot avec, vous savez, le caoutchouc, le joint orange en caoutchouc.
Oui.
On peut citer, c'est la marque Le Parfait.
Le Parfait, tout
et voilà, c'est une marque 100% made in France,
exactement,
qu'on respecte beaucoup.
Et donc ici, les carottes, de l'eau, du sel. Mm-hmm. Et c'est tout. Mais ici, en fonction de vos goûts, vous pouvez ajouter un peu de pomme pour le côté sucré.
Ouais.
L'oignon aussi pour le côté sucré. Un peu d'ail et un peu de gingembre pour le parfum. Et là, maintenant, c'est votre signature.
C'est ça.
Vous qui faites.
Mais quelle proportion quand même d'eau et de sel?
Alors ici, je varie entre 1,5% sur la masse ou 3%.
D'accord.
Donc ça, c'est les Coréens qui font 3%. Les Coréens ont une vie très saine, mais ils ont des problèmes cardiovasculaires.
Ah.
Parce qu'ils mangent trop salé.
C'est ça.
Et donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est descendre à 1,5. Ça veut dire qu'il faut des bonnes conditions sanitaires, mais si vous faites 2...
Donc concrètement, ça représente quoi en termes de proportion? C'est 2% de la masse totale?
Exactement, 500 grammes de carottes, 500 grammes d'eau, et vous avez 2 grammes de sel.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Et là, on met ça dans un bocal, on ferme, et ça se conserve à l'infini?
À l'infini. Enfin, j'ai des kimchi qui ont 3 ans. J'ai des carottes aussi qui ont 3 ans.
C'est ça. Et là, vous avez versé donc la saumure, c'est la
donc
solution
ici,
salée.
Donc ici, les carottes sont coupées.
Ouais, vous avez rempli déjà votre bocal.
Ce qui est important, c'est des légumes bio. Parce que si vous avez des intrants, etc., ben, les bactéries n'agissent plus. Et donc là, j'ai fait une saumure que j'ai chauffée et refroidie. Et je verse dessus, simplement. À ras-bord.
Waouh, voilà. Ah, carrément. Et ben bravo, on y arrive. Et voilà.
Et c'est tout.
Et vous refermez le bocal.
On le referme. Et ce qui est intéressant,
on conserve dans des conditions à la cave, au frais.
Non, vous le gardez chez vous, sur vos plans de travail à 22 degrés, avec une petite soucoupe.
Ouais.
Et c'est comme un petit tamagotchi. Il faut le surveiller tous les jours, lui donner à manger. Il fait du bruit.
Il faut le chambrer.
Sauf que là, on n'ouvre rien. Là, on
n'ouvre rien.
La fermentation opère au bout de 10 jours. On a des légumes croquants.
Après 2 heures, ça commence à partir. Quoi. Donc vous le laissez 10 jours, puis après vous mettez au frigo.
On c'est roule tout. Sur les questions d'auditeurs, chers Zazie. Allez, une question comme ça qu'on a sélectionnée.
Il y a pas mal de questions qui reviennent sur le prix.
Oui.
Par exemple, sur le pain, j'adore le pain, mais il peut coûter aussi cher que la viande. Le bon pain, à quand un bon pain démocratique, abordable et bon? Et pareil pour la viande et les autres produits. Est-ce que l'alimentation durable, tout le monde peut se la permettre? C'est ça la question qui ressort.
Ah voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce que l'alimentation durable, souvent on nous dit, est-ce que c'est un truc de bobo parisien? Ou est-ce que justement on a déjà abordé maintes fois ces questions, la question du prix, du juste prix, un élément de réponse assez court, hein?
D'abord, on a perdu la valeur d'une bonne alimentation. Voilà. On parlait tout à l'heure de la baguette à 29 centimes. Le prix n'a plus de sens dans l'alimentation. À force de la réduire, on ne sait plus la valeur des choses. Donc ça, c'est la première chose. Après, l'accès à une bonne alimentation, c'est une vraie question. Voilà.
Mais est-ce que l'accès ne passe pas par les horaires? Quelqu'un qui part au taf, pour le dire trivialement, au matin, n'a pas accès au marché. Réinstallons des marchés du soir. On rentre du travail, on a accès de nouveau. Mais bien sûr, il y a un test dans la Manche où j'habite, ça fonctionne.
Très bien.
Et puis l'accessibilité dès l'école aussi, apprendre aux enfants à bien manger à la cantine par exemple, ça commence aussi par là.
Absolument. Et si on buvait durable avec Dominique Hutin qui a rempli nos verres, certains sont déjà vides, mais je ne dénoncerai personne.
On va déguster sur France Inter.
Bon, je vous propose d'embarquer pour le futur. Alors, je vous rassure que c'est un horizon relativement proche puisqu'il s'agit de la fin du mois à Montpellier, le 28 février, bien sûr. Le salon Millésime Bio, qui est l'épicentre mondial du vin bio depuis 31 ans. Tiens, qui cette année, d'ailleurs, accueille en plus du vin, la bière et le cidre. Ah, c'est pas fait exprès. On parle quand même d'agroforesterie pionnière, donc c'est le moment jamais, on est dans le durable.
Vous n'aviez pas parlé de cidre, Dominique.
Voilà. Alors, je rappellerai quand même en préalable que vin bio veut dire cahier des charges, veut dire encadrement des parcours techniques, veut dire certification, veut dire label, veut dire contrôle par des organismes agréés par l'État, ce qui n'est pas forcément le cas de nombre de vins conventionnels qui sont produits parfois en mode un petit peu freestyle. Donc, à ce titre, vous pourrez consulter d'ailleurs un dossier qui est issu de la cellule d'investigation de Radio France, qui s'intitule « Près d'un milliard d'euros gaspillés, enquête sur le fiasco du plan anti-pesticides ». C'est lourd, c'est documenté, ça se lit pas comme du petit lait tout à fait, mais enfin bon voilà. Alors justement, et c'est parce qu'il a du tout le temps trouvé des alternatives aux pesticides de synthèse, que le vin bio a toujours été un laboratoire en termes de pratiques viticoles. Donc de tout temps, il a été scruté, hier forcément avec suspicion, puis aujourd'hui avec appétence, simplement pourquoi ? Parce qu'on estime que plus d'un Français sur deux consomme du vin bio et que cette tendance-là, eh ben, ma foi, elle continue d'être évaluée à la hausse. Alors évidemment, cet appel d'air bio a ouvert des appétits nouveaux, et parfois même une franche boulimie si on considère certains de ces labels un peu fantoches, qui n'ont pas d'autre valeur que celle d'être un cache-misère, vert devant et peu reluisant derrière. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a le dernier né qui s'appelle Vin Méthode Nature, qui, bien que très radical, il faut le dire, a été reconnu, un, par la répression des fraudes, et deux, par le très officiel Institut National des Appellations d'Origine, celui qui régule les camemberts, etc., etc. Alors d'ailleurs, c'est notre collègue Éric Morin.
Eh oui, chroniqueur dans cette émission, notre avocat gourmet.
Voilà, c'est lui qui a abordé le versant légal. Alors, lorsqu'il n'est pas là, puisqu'il est avocat, on l'appelle Maître Guacamole. Mais ça reste bien sûr entre nous. Voilà. Alors pour l'heure... Cette toute jeune mention fait l'objet d'une charte avec pour préalable d'avoir une certification biologique, donc soumise à contrôle. Et elle s'interdit tout intrant. Vous en parliez ça il y a deux secondes, ces intrants. Exception faite d'une petite virgule de soufre optionnelle en fin de vinification. Et vous trouverez en lien sur notre site les détails techniques de toute cette charte. Je me suis livré à une petite revue d'effectifs avec 90 cuvées. Déguster pour voir un peu comment calibrer cette histoire-là, tous ces vins de vin méthode nature. Alors vous comprenez que ça va être un petit peu long, je vais tout vous les détailler une par une. La première de ces... Non, je vois que Laura n'a pas l'air... notre réalisatrice n'a pas l'air d'accord, donc je vais m'en tenir à trois. En tout cas, vous allez trouver sur notre site toutes les coordonnées, les commentaires, les prix. Évidemment, il y a des ténors comme Christian Biner en Alsace qui fait carton plein, magnifique, toutes ces cuvées en Anjou, le domaine des Grandes Vignes, en Languedoc, le Maf ou l'Aquier. Et puis aussi... d'autres domaines moins éclairés par la presse, des véritables coups de cœur qui remplissent ou bah vos verres peut-être sont-ils vides, c'est ce que je regarde. Dans le Rhône-Sud, les vins de Blaise avec Stéphanie Rougnon. En Ardèche, un brin libre avec Colin Alex, 10 euros. Magnifique petit gamay en infusion.
Ça,
très très bon. Très très bon, c'est ce que vous avez dans votre verre. Mm-hmm. Et puis en Alsace, Amélie et Charles Spar. Farouche, une macération de Gewürztraminer
vinifié en vin orange, ça c'est terrible. C'est étonnant, il y a vraiment le côté, vous savez, zeste de pamplemousse avec la petite amertume de l'albédo, c'est magnifique.
Avec cette concentration, un tactile quasiment tannique, c'est formidable. Alors évidemment, ceux qui veulent mettre en procès ces vins vivants trouveront quelques vins parfois un petit peu de traviole, qui sont même appréciés avec une certaine complaisance par une partie des cavistes, une partie des consommateurs, mais bon, si on écarte ces quelques exceptions, c'est surtout l'occasion, lorsqu'on parle de ces vins naturels, de reparler d'agriculture, car ces vins naturels, faute de cosmétiques réparatrices, ils demandent une exigence supérieure, et à la cave, et en vigne. Et puis, ce joli casting, il est aussi signe de maturité, mais aussi de créativité. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont élevés en amphores, et que tout ça, évidemment, se traduit en nouveaux territoires du goût. Et donc, c'est une espèce de passionnante recomposition du paysage,
ça, c'est vrai.
Et gustatif, et humain. On a quand même des jeunes vignerons qui portent ce mouvement-là. Alors pour autant, le travail de tous ces vignerons qui réfléchissent un peu à leur boulot, c'est pas toujours vert pastel. Il y a aussi des perturbations climatiques, la grêle, le gel, la sécheresse, et tout ça oblige à prendre des assurances qui sont extrêmement coûteuses, qui peuvent parfois entraver même le travail des vignerons. L'exemple le plus récent, il m'a alerté, c'est Quentin Bourse. Son assurance vient de passer de 25 000 à 48 000 euros sans préavis, soit 82% d'augmentation. Donc, seule alternative proposée par la banque, c'est soit céder à ce qu'il estime être un racket écologique ou arrêter immédiatement son activité agricole. Et en conclusion, vous comprendrez facilement que produire sain, c'est l'une de tous les jours. Est-ce que ce vin nature propose une autre traduction du goût du vin, en même temps qu'il édifie une espèce de contre-culture avec des mots-clés tels que digestibilité, voire même torchabilité, hein, qu'on entend à Paris 11e, par exemple, la torchabilité. En tout cas, tout ça, ça peut être un petit peu aussi le remède à la mort du vin qu'annonçait l'écrivain Raymond Dumais dès 1970. C'est une prophétie que l'importateur américain Kermit Lynch a fait sienne et qu'il m'a confié ainsi. Les œnologues logent la stabilité au-dessus de tout, mais la vie n'est pas stable. C'est la mort qui est stable.
Ah.
Vive les vins vivants.
Merci, vive les vins vivants et vive les vins que vous nous avez apportés, notamment ce vin alsacien de macération, Gewürz, hein, en macération.
Gewürz, Amélie et Charles Spar.
Vin orange, ça c'est une super belle découverte, cher Dominique, un grand merci. On se reporte à vos conseils sur franceinter.fr.
90 vins sur notre site.
Ouais, impressionnant le travail de Dominique Hutin. Merci beaucoup. Beaucoup de questions sur deux sujets qui reviennent, et notamment la viande. Marie-Laure Frachet. Et on peut en manger. Vous êtes omnivore. J'allais dire omniveuse. On peut en manger évidemment.
On mais peut en manger, mais moins.
Que pensez-vous, par exemple, beaucoup de questions sur ces viandes sans viande. Vous savez, ces galettes végétales ou ces faux steaks. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, une fausse viande, un faux steak, c'est un faux aliment, tout simplement. Voilà. Donc, ça copie la viande dans son aspect, dans sa saveur, mais ça manque complètement l'intérêt de la viande, si on en mange encore, qui est l'intérêt nutritionnel. Voilà, donc ça, effectivement, il faut bien avoir conscience de ça. J'ai envie de citer, parce qu'on pourrait avoir des substituts à la viande, végétaux, mais qui soient intéressants du point de vue nutritionnel. J'ai envie de citer le travail d'une jeune femme qui s'appelle Marion Salomé, qui est chercheuse chez AgroParisTech. Avec son équipe, elle a mis en place une recette d'une galette végétale. Mais l'intérêt, c'est qu'elle n'est pas constituée d'aliments transformés, ultra transformés. Elle est constituée d'ingrédients qu'on peut avoir dans nos cuisine, des ingrédients voilà, qu'on peut acheter au marché, par exemple des shiitakes, du poivron, des germes de soja, des graines de lin. Et elle a montré que voilà, non seulement en fait, cette préparation a les mêmes nutriments que la viande, mais surtout on pourrait le préparer à la maison. Donc ça c'est une solution intéressante pour
substituer
la viande.
Il y a aussi évidemment la viande bien élevée, et puis il y a toutes les créations végétales. Un tout petit mot, alors vous avez juste quelques secondes de ça, mais on va déguster ça ensemble juste après l'émission, c'est autour du chou.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'appelle ?
50 Shades of Chou.
15
Shades of Chou.
Donc c'est 15 nuances de chou. J'ai déjà goûté ce plat, c'est 15 variétés de chou dans une seule assiette.
Oui.
Preuve que la biodiversité est bien au cœur de votre potager.
100%.
Et on peut aller l'expérimenter à l'air du temps. Le restaurant 2 étoiles de Saint-Oum de Gimbre, il a un talent fou. Il aura bientôt sa troisième. Je fais les paris. Et puis, il y a l'encyclopédie de l'alimentation durable pour une cuisine vivante chez Flammarion, signée par Marie-Laure Fréchet. Un livre indispensable si on a envie de se tourner vers cette alimentation. La semaine prochaine, tiens, le lait. Produits standardisés ou breuvages nourriciers, on en parle avec nos invités. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.